carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Gaston Phébus, comte de Foix et vicomte de Béarn, est à l'honneur dans nos musées français depuis le début de cet hiver. Le musée de Cluny à Paris a présenté Gaston Phébus 1331-1391, Prince Soleil. Le château de Chantilly a exposé également Gaston Phébus, le livre de chasse dans la collection du duc d'Aumale, Chantilly oblige. Et le château de Pau en Béarn offre à ses visiteurs jusqu'au 17 juin 2012 un second volet de l'exposition du musée de Cluny intitulé « Gaston Phébus, armes, amours et chasse ». Son livre de chasse, remarquable à tous égards bien sûr, mais aussi la vie, l'histoire de ce prince du XIVe siècle, au temps de la guerre de Cent Ans, est singulière. C'était un personnage aux nombreuses facettes, nous verrons ça. Philippe Contamine, historien médiéviste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Marie-Hélène Ténière, conservateur général des bibliothèques, département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, évoque pour nous l'étonnante et flamboyante figure de Gaston III Phébus. Bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour. Bonjour.
Merci de votre visite dans notre studio. Vous avez tous deux participé à la rédaction du superbe catalogue de l'exposition du musée de Cluny. Vous madame pour le livre de chasse et vous monsieur pour évoquer le contexte historique. Commençons par l'histoire. Philippe Contamine, vous avez écrit « Gaston Phébus et la royauté française ». J'ai lu aussi « Un prince dans la tourmente ». Quels sont les aspects historiques de la vie de Phébus et puis pourquoi ce nom? Pourquoi Phébus?
Je pense que parmi tous les princes du XIVe siècle, Gaston Phébus est l'une des figures les plus étonnantes. Il y en a eu des tas à l'époque. Des bons, des moins bons, des médiocres, des affreux. Et Gaston Phébus a été exceptionnel à tous égards, un prince pleinement médiéval et non pas un prince de la Renaissance, bien ancré dans son temps par conséquent, qui ne devançait pas et qui a su assurer, après sa mort, sa légende, sa réputation. De quelle façon? Eh bien, en écrivant le livre de la chasse, qui a suscité un très grand nombre de manuscrits, on va en parler, et des manuscrits magnifiques, et d'autre part, en s'assurant le concours d'un poète, d'un historien du XIVe siècle, un chroniqueur, Jean Froissart, qui s'est rendu en 1388, de part et d'autre de la fête de Noël 1388, quelques semaines avant, quelques semaines après, à la cour d'Orthez, auprès de Gaston Phébus. Et c'est là que Froissart a lu son poème, un poème de style arthurien, 31 000 vers, et encore la seule version qu'on a est peut-être inachevée, tous les soirs, toutes les nuits, parce que Gaston Phébus est un nocturne, il vit la nuit, sauf quand il chasse, naturellement, et il raconte, à la fois dans le dit du Fleurin et dans ses chroniques, l'impression que lui a fait ce personnage tout à fait étrange, tout à fait surprenant.
Auquel il s'était attaché, parce qu'il appréciait la culture.
Oui, parce qu'il appréciait sa culture. Et il faut reconnaître, si vous voulez, que c'est un petit peu étonnant. Parce que Gaston Phébus, c'est un occitan. Sur ses constructions, on voit Phébus méfait, qui est de l'occitan. Il savait un peu de latin. Bon, peut-être pas autant qu'on l'a dit, mais enfin, il savait quand même un petit peu de latin. Mais Froissart lui a lu son poème de Méliador, à raison de 14 pages par nuit, en Languedoc, en langue du Nord, et même en Picard, avec des cheux partout, etc. Et Gaston Phébus a écouté, admiratif, et même de façon à ce que on ne perde pas un seul mot de cette lecture, il demandait à ses courtisans, non sans mal, mais en même temps il était autoritaire, de faire un silence absolu. Alors donc, à cause de ces deux éléments, le souvenir de Gaston Phébus a été considérable. Ajoutons à cela ce dont j'ai parlé, à savoir ses constructions. Il a été un prince bâtisseur pour assurer la sécurité de sa principauté territoriale.
C'est pour ça d'ailleurs qu'à Pau, il y a une de ses plus belles forteresses.
Absolument, et il y en a plusieurs d'autres.
Il s'agissait
de garder le comté de Foix, la vicomté de Béarn, contre l'envahisseur et notamment contre la maison d'Armagnac. Il faut imaginer Gaston Phoebus dans une situation assez difficile, dans la mesure où c'est un prince, c'est un seigneur, comte, vicomte, il n'est même pas duc, entouré de rois. Or, il y a une très grande différence de statut entre un prince, même un grand prince, et un roi. Alors, quels étaient ces rois ? Le roi d'Angleterre, en même temps duc de Guyenne ou d'Aquitaine, le roi de France.
Et le roi d'Aragon ?
Le roi d'Aragon,
le roi de Castille,
le roi de Navarre. Alors, il fallait pour lui beaucoup d'astuces, beaucoup d'entre-gens et un certain nombre de capacités, et notamment des capacités militaires, pour maintenir tant bien que mal, je ne dirais pas l'indépendance juridique, mais l'autonomie de sa principauté, composée de deux ensembles, la vicomté de Béarn, avec Pau, avec Orthez, où il résidait très volontiers, et qu'il a réussi à rendre pratiquement indépendante. C'est pour ça qu'il préférait être appelé seigneur de Béarn que vicomte de Béarn. Si on est vicomte de Béarn, c'est qu'il y a un comte au-dessus de vous. Tandis que là, il était plus volontiers seigneur de Béarn. Puis à côté de cela, il est comte de Foix, avec la ville de Foix, n'est-ce pas ? Bon, et alors, son problème, il a été multiple, si vous voulez. Il s'agissait par conséquent de se maintenir contre ses voisins, qui étaient éventuellement des ennemis, donc faire des alliances, etc. Et puis, en même temps, à la limite, eh bien, comme ces deux ensembles territoriaux sont séparés par le Comminges, par la Bigorre, n'est-ce pas ? Il s'agissait de les réunir. Ça, il n'y est jamais parvenu. Donc, il n'a pas pu, disons, faire une seule entité de la vicomté de Béarn et du comté de Foix, alors que, a priori, on aurait pu penser que c'était son intention.
Mais il faut dire que c'était très difficile à l'époque de réussir à récupérer des territoires.
Oui, parce que la géographie féodale était beaucoup plus stable qu'on pourrait le penser. Et par-dessus tout, il y avait le roi de France, avec lequel Gaston Phoebus a entretenu des rapports compliqués, et souvent des rapports de défi, de méfiance, de réserve en tout cas, et le roi de France veillait à ce que la géographie féodale, même dans le midi de la France, qui était quand même très loin de Paris et de ses bases, disons, de gouvernement et de pouvoir, ne bouge pas. Et donc là, de ce point de vue-là, eh bien, Gaston III Phoebus a échoué si telle était son ambition. Alors, cela dit, je pense qu'on peut voir en lui un grand administrateur, Madame Payès y insiste, à juste raison, un administrateur exigeant, rigoureux, qui contrôlait son espace et qui faisait maintenir la paix et la justice. La justice et la paix. Une justice forte. Une justice que, par conséquent, ses sujets pouvaient apprécier.
Et je crois qu'il menait aussi une justice directe.
Oui. Alors, effectivement, il contrôlait beaucoup lui-même cette administration qu'il avait mise en place, en essayant de limiter les pouvoirs des châtelains, des seigneurs, et en administrant le plus possible directement ses sujets, en rendant lui-même la justice, à l'occasion, un petit peu, selon le modèle de Saint-Louis sous son chêne. Alors, à cela, eh bien, il avait la main lourde, incontestablement. Mais en même temps, la paix est une grande chose. Or, ses sujets voyaient que tout autour, et notamment en Languedoc, il y avait des compagnies, des pillards, etc.
Il n'y a pas eu de routier chez lui.
Alors, en apparence, il n'y a pas eu de routier. Et donc, en plus, il a bénéficié de quelque chose qui n'est pas tout à fait assuré, mais qui est probable. Il n'est pas impossible que la vicomté de Béarn n'ait pas subi cette grande hémorragie qu'on appelle la peste noire. Un petit peu reculé, un petit peu à l'écart. Donc, il a peut-être bénéficié d'une démographie, ses sujets, sa principauté, a pu bénéficier d'une démographie plus favorable que la démographie voisine. Et on n'a pas de traces, voilà, c'est ça, en négatif, en creux, on n'a pas de traces de cette peste noire et des ravages qu'elle a pu faire ailleurs, précisément en Béarn. Alors, pour le comté de Foix, les sources sont trop insuffisantes pour qu'on puisse conclure. Mais pour la vicomté de Béarn, on a quand même des documents conservés, notamment aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, et l'examen de ces documents laisse penser, disons, que le Béarn a été préservé.
Mais c'était un personnage qui semblait faire un petit peu peur. Je ne dis pas peur d'une façon simple, mais vraiment peur. Le roi de France s'en méfiait, vous l'avez dit. Il n'est jamais venu faire l'hommage.
Eh bien voilà, absolument. Donc, peur, oui. Je pense que c'était un mode de gouvernement. la peur, la colère. Il faisait peur. Hein. Et donc, on peut dire que la colère, peut-être quelquefois une colère simulée, était un moyen de faire peur, non seulement à ses voisins, mais encore à ses sujets. Alors, sa grande réussite, c'est une réussite militaire. À savoir qu'il y avait à l'époque plusieurs grandes familles qui se partageaient cet espace, disons trois grandes familles surtout, la famille d'Albret, la famille d'Armagnac, la famille de Foix, Foix-Béarn. Bon. Et donc, il l'a emporté sur la famille d'Armagnac, sur la maison d'Armagnac, sur Jean Ier d'Armagnac, à la bataille de Launac en 1362. Alors donc, ça a été une formidable victoire, grâce à laquelle il a ramassé quantité de prisonniers. Et nous sommes à l'âge d'or des rançons. Le XIVe siècle, c'est l'âge d'or des rançons. Les rançons ont moins d'importance au XVe qu'au XIVe siècle. Et il a amassé un énorme trésor bien géré. Il l'a mis en cave, à l'abri, dans une tour, etc., à Orthez. Alors, il s'en est servi pour son luxe, pour son train de vie, qui était un train de vie de prince considérable. Nous n'avons pas les comptes, mais enfin, c'est très très probable. Il s'en est servi pour ses constructions, et puis il s'en est servi également pour, disons, d'autres guerres, et qu'il a menées en général de façon victorieuse.
Mais il n'a jamais été dans les armées françaises pendant la guerre de Cent Ans contre le...
Ou en tout cas très peu. À la différence de son père, qui était, disons, un fidèle de la monarchie française à l'époque de Philippe de Valois, lui a toujours maintenu ses distances. Alors il promettait plus ou moins, disons, son concours, mais ça ne venait jamais. Et en revanche, on l'a accusé à la cour de France, à tort ou à raison, d'être du côté des Anglais et même, disons, de recruter dans ses armées des Anglais, des Anglo-Gascons, qui portaient sur eux la croix droite rouge de l'Angleterre, c'était un signe de reconnaissance, et de piller ses adversaires, et notamment, disons, les sujets du roi de France, proprement dit, à travers la Languedoc. L'une de ses ambitions, qui a été rarement réussie, il y est parvenu, mais de façon très fragile et très temporaire, c'est de devenir lieutenant général du roi de France en Languedoc. Parce que c'était beaucoup plus prestigieux qu'être simplement comte de Foix, et en même temps beaucoup plus rentable parce que on pouvait bénéficier des impôts de la région, d'une pension, etc. Et on avait à sa disposition de très grandes villes. Autrement dit, le propre de Gaston Phoebus, c'est d'avoir à sa disposition des villes assez petites, assez médiocres. Et il n'a jamais réussi, durablement en tout cas, à devenir, disons, maître au nom du roi de France de Toulouse.
Vous avez parlé de ses réussites. Quels sont ses échecs? Quels sont ses
Quels sont ses échecs? Eh bien, c'est ce que j'ai dit, à savoir que un prince territorial cherche à s'agrandir, à réunir ses territoires. Il n'y est pas parvenu. Ses territoires, avant et après lui, sont à peu près la même configuration, à quelques nuances près. Et d'autre part, une maison est destinée à survivre, à se prolonger. Or, il se trouve que Gaston Phoebus, de façon assez mystérieuse, incontrôlée, pour des raisons qui nous échappent en partie, a tué de sa propre main son fils unique.
L'héritier potentiel.
Et voilà, l'héritier potentiel. Donc, évidemment, c'était absolument contre-productif si on songe que une maison princière, une maison royale, cherche avant tout la continuité, ce que les Allemands appellent Hausmacht, la puissance dynastique, si vous voulez. Eh bien, cette puissance dynastique lui a échappé, à ce point même qu'à la fin de sa vie, il s'est rapproché, il naît en 1331 et il meurt en 1391, eh bien, il s'est, dans l'ultime période de sa vie, il s'est rapproché de Charles VI, du jeune Charles VI, qui s'est rendu chez lui. Et c'est à cette occasion que Gaston Phoebus, enfin, a prêté hommage au roi de France et il l'a légué, disons, au roi de France, à Charles VI, ses possessions. Alors, le roi de France a compris que c'était un trop gros morceau et qu'il fallait ne pas rattacher au domaine ses possessions, notamment le comté de Foix, mais c'est le signe, malgré tout, d'un échec, disons, d'un échec temporel de Gaston Phoebus, de Gaston III.
Avant d'évoquer avec Marie-Hélène Ténière le livre de chasse de Gaston Phoebus, écoutons les voix des chiens sur la trace d'un grand cerf, la chasse interprétée par l'ensemble Clément Jeannequin.
Thank you.
Madame Ténière, il y a une grande chose qu'il a bien réussi, c'est ces fameux livres de chasse. Donc les livres de chasse, c'était pas nouveau, il y en avait déjà toute une généalogie des livres de chasse, enfin, en tout cas une lignée.
Oui, alors il faut d'abord dire que Gaston Phoebus était un passionné de chasse. Et il suffit de lire, pour en être convaincu, le prologue de la dédicace du livre de la chasse au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Il dit « Il n'y a pas de plus grand bonheur pour un homme que de partir à la chasse. Il part à la chasse de bon matin, à la clarté de la lumière du matin. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir la rosée briller au soleil levé sur les petites herbes, ensuite de partir à la quête du cerf, puis de se réunir avec les autres seigneurs et amis pour évoquer tout ce
Donc c'était un poète comme son ami Froissart. C'est pour ça qu'il pouvait écouter des heures entières.
Il aimait la nature.
Oui, il aimait la nature
pleinement.
Oui, bien sûr. Mais il dit aussi que c'est un bonheur absolument extraordinaire et il sait faire passer ce bonheur dans son livre. Et il raconte à la fin, et il n'y a pas de plus grand bonheur que de revenir le soir bien fatigué à son logis, de manger un peu de lard de cerf, de boire, de savourer la torpeur de la vesprée, comme il dit, et de se coucher dans des bons draps frais. Et il ajoute, et d'ailleurs, tous les chasseurs vont au paradis. Voilà. C'est un homme qui est passionné de chasse. Et la chasse, on peut dire, envahit son existence. On voit bien que lorsqu'il part combattre dans le nord de l'Europe avec les chevaliers teutoniques, il en profite pour partir à la chasse aux rennes. Lorsqu'il est en train de signer un traité, le traité de mariage de sa pupille Jeanne de Boulogne avec le duc de Berry, à la fin, il ajoute, et puis en plus des 30 000 francs, eh bien vous me donnerez 3 de vos plus belles têtes de cerf et 6 de vos meilleurs lévriers. Donc c'est à tous les instants qu'il pense à sa chasse. Et il est vraisemblable aussi que c'est parce que le matin, il est à la chasse qu'au fond, il reçoit ses hôtes le soir à minuit, entre minuit et 3 heures du matin. Mais il ne suffit pas d'être un homme passionné de chasse pour écrire un livre de la chasse. Et il faut penser que c'est un lettré aussi. C'est un lettré, et puis quelque chose que l'on dit moins souvent, c'est un amateur de science. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Alors, ça n'est pas absolument rarissime. On sait par exemple que Charles V est aussi un amateur de science, mais c'est quand même exceptionnel. Et on connaît sa bibliothèque, on sait que dans sa bibliothèque, il a des textes des encyclopédies, l'encyclopédie de Barthélemy Langlais, que lui-même ou que son entourage a fait traduire en occitan. Ça, c'est rarissime. Il a également dans sa bibliothèque un petit manuel de médecine qui vient d'Espagne, qui aussi a été traduit en occitan. Et ça aussi, c'est quelque chose de rarissime.
Je crois que aussi bien son livre de chasse que son bestiaire diffère des précédents parce qu'il y a un aspect scientifique.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça. On peut dire que la nouveauté de Gaston Phoebus, c'est au fond d'avoir placé l'animal au centre de son livre. L'animal est désormais le sujet du livre, alors qu'au fond, dans les livres qui parlent des animaux auparavant, et en particulier les bestiaires, l'animal est un vecteur qui sert à la prédication, ce qui est une chose totalement différente. De la même manière, on peut dire que probablement, il écrit son livre de la chasse en 1387, alors qu'il a 55 ans, c'est finalement relativement tard, pour deux raisons. À la fois, il y a le modèle, bien sûr, de Frédéric de Hohenstaufen, qui, lui, grand prince, a écrit vers le milieu du...
Sur la fauconnerie, lui.
Sur la fauconnerie. Mais il y a aussi le fait que viennent de paraître, justement, deux ouvrages sur la chasse. Le premier, c'est une sorte, on pourrait presque dire, une sorte de miroir des princes, en fait. La manière dont on se conduit avec les chiens et avec les faucons est représentative de la manière dont on va se gouverner, gouverner les autres, etc. Donc c'est plutôt la morale d'un miroir des princes qu'il y a derrière ce livre, tandis que l'autre livre, celui d'Henri de Ferrières, le livre du roi Modus et de la reine Ratio, qu'il a énormément copié, en fait est davantage un traité technique. Et lui, il va transformer tout ça. Son livre est fait, on pourrait dire, de trois parties, si on veut dire, d'une première partie qu'on pourrait appeler une espèce de bestiaire scientifique des animaux de la chasse et qui est complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il décrit d'une manière tout à fait aristotélicienne les animaux. Personne ne l'avait fait auparavant, me semble-t-il. Donc, il décrit physiquement l'animal et qui plus est, il dit, et puis vous verrez sur la miniature à côté, cette représentation de l'animal, ça c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, il décrit l'animal, son mode de reproduction, son mode d'alimentation, comment on le chasse, comment il fuit devant l'homme. Il décrit aussi quel est le commerce que l'on peut faire avec cet animal. Il décrit quelle est la médecine qu'on peut en tirer. Ça, c'est vraiment des choses toutes nouvelles. Cette partie est vraiment très neuve. Donc, c'est une partie, une sorte de bestiaire scientifique des animaux de la chasse. Auquel il a rajouté un immense chapitre sur les chiens aussi, qui est très important. Et puis, la deuxième partie est, on pourrait presque dire, une sorte de copie du livre du roi Modus et de la reine Ratio, mais une copie, il transforme le sens de ce texte. Puisque Henri de Ferrières écrivait plutôt un traité de chasse, une sorte d'encyclopédie qui fonctionnait par une série de questions-réponses et qui était moralisée. Lui, il écrit un art de la chasse qui est complètement différent. C'est une sorte de code de la noblesse de la chasse. On dirait qu'il y a une espèce de cohésion, en fait, une espèce d'harmonie entre l'animal, le chasseur, les chiens. Par exemple, quelque chose de tout à fait symptomatique, il parle de l'intelligence de l'animal. Il explique qu'une partie, finalement, du plaisir de la chasse, c'est l'intelligence qu'a le lièvre, c'est l'intelligence qu'on les sert, en fait. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau dans cette espèce de code de la chasse qui va réunir, en fait, toute l'aristocratie, qui est un art de la noblesse. Et ce qui va faire, au fond, le succès de ce livre, c'est que cet art, cette nouvelle art de la noblesse va être associé, au fond, au beau manuscrit enluminé.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a le contenu et les illustrations.
Voilà. Et les illustrations, là encore, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque lui-même, à l'occasion d'un voyage en Avignon, il fait faire deux manuscrits dont il supervise lui-même l'illustration. Et c'est malgré tout assez rare. Donc, il en supervise l'illustration, il fait faire deux copies, par le même enlumineur, d'ailleurs, dont les historiens de l'art ont trouvé le nom, il s'appelle Jean de Toulouse. Une copie qui est illustrée, qu'il offre à Philippe Le Hardy, qui se trouve aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, et une copie qui est en grisaille, qu'il va garder dans sa propre bibliothèque, et ce que ses successeurs auront. Mais il faut bien voir, malgré tout, que ce livre de la chasse, ça n'a rien d'une chasse cruelle, comme on pourrait l'imaginer. En fait, c'est encore une chasse un peu rêvée, un peu onirique, en réalité. Et c'est probablement ça qui va faire le succès du livre. Il faut savoir que, au départ, il n'est pas du tout certain que Gaston Phoebus avait prévu, comment dire, la diffusion de son ouvrage. C'est simplement que le manuscrit se trouvait dans la bibliothèque de Philippe Le Hardy. Et Philippe Le Hardy, vers les années 1407, enfin, c'était plus Philippe Le Hardy, son fils, Jean sans peur, en fait, a voulu remettre, on pourrait dire, au goût du jour, ce livre de la chasse et en a fait faire deux autres copies, dont François Avril a montré que l'une était probablement offerte à Louis d'Orléans et aujourd'hui il est à la Pierrepont de Morgan, et l'autre probablement au duc Louis de Guyenne, qui était en quelque sorte le dauphin sur lequel se fondaient tous les espoirs de la royauté. Et c'est ces deux ouvrages qui vont faire le succès du livre.
Et que Phoebus n'a jamais connu.
Non, Phoebus n'a jamais connu, mais finalement, Frédéric de Hohenstaufen, c'était la même chose. Je veux dire, les manuscrits qui l'ont rendu célèbre, c'est son fils aussi qui les avait fait faire.
Oui, c'est évidemment quelque chose de tout à fait extraordinaire, tout à fait unique. Il faut bien penser que la littérature didactique et pratique médiévale est assez limitée. Ben, je me suis quand même beaucoup intéressé à l'art de la guerre. Eh bien, finalement, pendant très longtemps, il y a eu un seul traité d'art militaire, Végès, en latin, ou bien traduit avec quelques interpolations. Et ce traité de Végès, pour l'historien de la guerre réelle au XIVe, XVe siècle, est extrêmement décevant, parce qu'en réalité, c'est une représentation de la guerre à la fin du Bas-Empire. Voyez-vous ? Donc, avec Gaston Phébus, on a une description, une analyse tout à fait concrète, originale, même s'il y a eu des sources ici ou là, original. Et donc, c'était pas l'habitude des médiévaux. Il n'y a pas de traité pour construire une cathédrale. Il n'y a pas de manuel pour faire tisser des draps. Tout cela était oral. Tandis que là, nous avons, disons, un document exceptionnel parce que il a un côté pratique. Il peut servir, indépendamment même de l'illustration, il peut servir à mieux chasser les bêtes noires et rousses.
Donc, il avait quand même un côté un peu en avance sur son temps,
celui-là,
en tout cas.
C'est vrai. Je le reconnais qu'effectivement, c'est assez original. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
Oui, alors aussi, quelque chose de tout à fait original, c'est en particulier la représentation des animaux dans ce manuscrit 619, la représentation des animaux de ce bestiaire scientifique, dont on ne sait pas très bien quelle est l'origine, puisqu'il représente les animaux dans leur réalité. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pour l'époque, lorsqu'il y a des manuscrits illustrés, ce sont des diagrammes qui illustre des textes. C'est rarement une représentation de quelque chose de réel. Et ça, c'est tout nouveau. Et on pense peut-être que ces illustrations de la description des animaux, il s'est inspiré, semble-t-il, de pavements de mosaïques antiques ou de manuscrits de Virgile, d'un Virgile qui est aujourd'hui au Vatican et qu'il a pu voir à l'abbaye de Saint-Denis. Donc, en plus, enfin, il y a quelque chose de très nouveau, même dans cette partie-là de l'illustration. Mais il faut dire aussi que c'est aussi un homme qui, évidemment, est à la frontière du Nord et du Sud. Donc, il est probablement aussi plus proche des courants du Sud de la France et de l'Europe. En particulier, dans sa bibliothèque, on voit aussi qu'il a un livre des faits des Romains qui vient d'Italie. Donc, il a pu être en contact de manière tout à fait différente que la cour de France.
De toute façon, il était dans une région incroyablement ouverte, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'était ses complications.
Région,
mais...
Une région également giboyeuse, j'imagine. Et donc, il y avait des ours, hein, beaucoup d'ours, semble-t-il. On dit toujours qu'il est mort à l'issue, disons, d'une grande chasse à l'ours, n'est-ce pas, qui l'avait occupé toute la matinée. Il est rentré chez lui, il s'est mis à table et puis s'est écroulé. Donc, voyez-vous, il était, pour ainsi dire, victime de cette extraordinaire passion cynégétique. Les historiens, disons, un certain nombre d'historiens estiment que la chasse, c'est le solace, c'est-à-dire le plaisir. Hein, le plaisir, sous toutes ses dimensions, l'environnement, et puis les vallées de chasse, etc., le bruit, les chiens, que sais-je. C'était aussi un moyen, notamment pour les seigneurs, puisque la grande chasse est quand même une chasse seigneuriale, royale, un moyen de contrôler leur territoire. Donc il y a cette espèce d'aspect de maîtrise du territoire. Je pense qu'il chassait chez lui, soit dans le comté de Foix, soit dans la vicomté de Béarn, avec cette idée qu'il était véritablement chez lui, par-dessus les possessions, les fiefs de ses sujets, de ses vassaux. Je crois qu'il y avait aussi cette dimension, même si celle-ci, sauf erreur de ma part, n'apparaît guère dans son traité.
Non, en effet.
Mais peut-être que c'est une dimension dont il n'avait pas besoin de parler, car c'était une évidence.
C'était peut-être une évidence, effectivement. Alors, une question que je me suis posée, à savoir, est-ce que la chasse au faucon, il l'a pratiquée un petit peu, mais il n'en parle pas, pour ainsi dire. On aurait aimé qu'il y ait... Parce que vous savez, à l'époque, il y avait cette rivalité. Qu'est-ce qui est mieux ? Disons, chasser avec un cours, forcer un cerf, etc., un sanglier, c'était quand même différent, un loup, un ours, ou bien, au contraire, se servir de faucon, d'oiseau de proie, n'est-ce pas ? C'est même le modèle Frédéric II, c'est une chasse extrêmement raffinée, complexe.
Oui, la plus élégante.
Complexe, la plus élégante, celle où plus volontiers les femmes participent. Il y a aussi cet aspect-là. Et donc lui, il était plutôt du côté de la chasse. Et donc les gens de l'époque, les nobles de l'époque parlaient d'amour, de chiens, d'oiseaux et de guerre, hein, et d'armes. C'est tout ce qui comptait. Hein. L'arme, mais... chien, oiseau, et voilà. Donc, eh bien, je pense que Gaston Phébus parlait peut-être d'amour, c'est possible.
Mais il devait parler des chiens beaucoup, puisque madame l'a
chiens,
évoqué.
Mais il parlait moins d'oiseaux, voilà.
Donc, son amour des chiens l'a sans doute porté à plutôt chasser à court.
C'est possible. C'est possible que ce soit le secret.
Philippe Contamine, pour conclure, ce personnage incroyable dans l'échelle de l'histoire, ou même localement là-bas.
Il a laissé un grand souvenir. Je pense que ce souvenir, il faudrait en voir, disons, l'évolution à travers les siècles. Peut-être qu'il y a eu une résurrection au XIXe siècle après un temps d'oubli ou d'éclipse relative. La façon d'assurer sa mémoire aussi, c'est de commander une histoire de sa maison par un historien, par un historiographe, par un chroniqueur. Froissart n'a pas fait l'histoire de sa maison. Mais il semble qu'il y a eu, à l'époque, un certain Honoré Bouvet qui a écrit une histoire, peut-être de la maison de Béarn Foy, peut-être même de Gaston Phoebus, mais malheureusement, nous n'en avons que des pâles échos imparfaits, mais ça a dû exister. Donc ça, c'est un élément. Et puis, un deuxième élément, effectivement, les historiens ont tendance à peser les choses en termes politiques. Bon, mais en réalité, peut-être que la chasse prime, n'est-ce pas? C'était peut-être l'essentiel de ses activités, puis il y avait un petit peu, en quelques heures par jour, quelques quarts d'heure par jour, un peu d'administration ou de haute politique. Donc il faut relativiser entre la vie privée et la vie publique. Peut-être que c'est la vie privée, et donc la chasse, qui l'emportait dans son esprit, et c'est ce qui le rend, en un sens, assez attachant. Enfin, le dernier point, en plus, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le livre des oraisons ». Et d'ailleurs, dans le catalogue, il y a un très beau passage, oui. Un très beau chapitre de Geneviève Havner à ce sujet. C'est une œuvre complexe, c'est une œuvre intéressante qui nous montre des aperçus sur la piété, la dévotion, le remords, le regret, l'imploration de la miséricorde divine, car c'était à sa manière, un croyant, même s'il y avait chez lui une part de ténèbres, puisqu'on a dit qu'il y avait un démon familier qui lui permettait de tout comprendre, de tout savoir.
Marie-Hélène Tenière, ce livre des oraisons, si je comprends bien, ce sont des manuscrits qui sont à la suite du livre de chasse.
Oui, c'est un texte qui est à la suite du livre de chasse. D'ailleurs, le texte, comme Geneviève Havner dit, il était prévu d'abord pour son propre exemplaire, le français 619, et ensuite il a été placé dans l'exemplaire du duc de Bourgogne. Voilà, donc c'est en fait une quarantaine de prières, comme les 40 jours du carême, si je puis dire, ce qu'elle dit tout à fait bien, avec trois prières en latin qui, semble-t-il, dont Madame Havner montre qu'elles sont probablement de Gaston Phoebus lui-même et légèrement autobiographiques, en fait. Et puis, une série de prières en français qui sont, semble-t-il, qui ont été compilées, qui sont des traductions faites par d'autres, de Saint Anselme, des soliloques de Saint Augustin, etc. Et peut-être que déjà là, il y a une manière de travailler à sa propre renommée, en fait, dans ce texte.
Oui, figure étonnante que ce personnage en clair-obscur.
À la fois complexe, polyvalent. Encore une fois, je crois qu'au sein de la Galerie des Princes, dans la Galerie des Princes du XIVe siècle, il a véritablement une place à part.
Merci madame, merci monsieur.